Écosystème, Florence Farion.
Je suis certaine que vous avez quelque part sur une étagère, ou accroché au mur, ou peut-être dans un tiroir, quelque chose de précieux, dont personne ne voudrait à part vous. Quand je parle de préciosité, je ne parle pas de valeur marchande, mais de valeur de cœur. Ce petit objet appartenait à quelqu'un que vous aimiez, qui a compté et qui n'est plus là. Pour rien au monde, vous ne voudriez vous en séparer, car c'est une manière de vous souvenir encore, de chérir, de rendre hommage à cette vie qui a compté dans la vôtre. Et en ce lendemain de tout ça, nous allons parler des objets et de ce devoir de mémoire. Soyez les bienvenus, c'est Écosystème jusqu'à 14h. Nos invités ont appelé ces objets des objets transmissionnel, c'est un joli néologisme, un clin d'œil à l'objet transitionnel de ce cher Winnicott qui dit ces petites choses qui rassurent les enfants. Michel Borzikowski, bonjour.
Bonjour.
À votre côté, Ilan Lev. Vous êtes tous deux auteurs d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Slatkin. On va raconter l'histoire évidemment de ce livre, on va raconter toute la démarche. Ces objets transmissionnels, c'est donc un beau livre paru chez Slatkin que vous venez nous présenter, préfacé par Boris Cyrulnik. Je vous présente quand même tous les deux. Pour dire un peu que vous, Michel, vous étiez médecin généraliste, désormais à la retraite, mais apparemment passionné par plein de choses, notamment par la photographie, et ce livre en est témoin. Et Ilan, vous, vous êtes chercheur associé en sociologie à l'Université de Genève et à l'EHESS à Paris. Et ce livre, eh bien, c'est un livre qui dit la mémoire des survivants, deuxième, troisième génération des victimes de la Shoah. Vous êtes allé voir une quarantaine de personnes qui vous ont présenté un objet. Et derrière cet objet, évidemment, il y a des histoires.
Moi, j'ai l'habitude de dire que nous nous sommes rendus chez 40 personnes à Genève et aussi dans d'autres villes de Suisse romande à qui nous avons demandé est-ce que vous auriez par hasard dans vos affaires personnelles des objets qui remontent à la Shoah et qui permettent d'en savoir plus sur l'histoire de votre famille durant cette période. On en a interrogé en réalité beaucoup plus que 40, et 40 ont pu trouver quelque chose. Le processus avait parfois été long.
Parce qu'il n'y avait pas toujours l'évidence de l'objet.
Pour la plupart des gens, l'objet était évident. Dès qu'on a parlé d'objet, et même souvent c'est les gens qui ont parlé d'objet avant que nous leur demandions et nous les sollicitions, dans un groupe de parole, les gens disent un peu ce qu'ils ont envie, ils racontent leur histoire, leur vie, la vie de leur famille, et l'objet apparaissait comme une chose absolument évidente. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Il y avait des gens qui, eux, par contre, ne savaient pas. Ils ont dit, mais moi, j'ai rien. Tout a été perdu. Tout a été détruit. On m'a toujours dit ça. Et tout d'un coup, quelques semaines après, il y a eu un tilt. Mais si, en fait, moi, j'ai un objet. Je suis allé chez Peter. On a passé une heure et lui m'a dit, oui, il me reste pas grand-chose. En fait, de ma famille, j'ai une photo de mes ancêtres, qui est d'ailleurs dans le livre. Mais d'objet, je n'ai rien. On a discuté pendant une heure, deux heures. Et en partant, en prenant congé, je lui dis, tiens, t'as des jolies choses sur ton étagère. Il me dit, ah oui, ça c'est un sucrier qui vient de Tchernovitz. Et ça c'est un objet dont je me séparerais pour rien au monde. Je dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Voilà, l'objet était là. Et il l'avait oublié.
Il y a une quarantaine d'histoires, je le disais, dans ce livre, illustrées par des photos, où l'on voit ces hommes et ces femmes avec ces... Et ce récit d'histoires, alors qu'ils sont folles, miraculeuses, douloureuses, merveilleuses, on met tout ce qu'on veut, c'est vraiment 40 films presque, en fait, qui sont racontés à travers ces histoires. 40 histoires de vie incroyables.
40 histoires, alors certaines sont très courtes. Oui. C'est des petits flashs qui font une demi-page. D'autres sont plus longues, ça va jusqu'à 16 pages. Le livre en fait 360.
Il pèse son poids.
Oui, il pèse son poids, et pas seulement son poids de papier ou de carton, mais aussi son poids d'émotion. Il y a tout son jeu, il y a de l'or, il y a du plomb, il y a une maison, il y a des papiers, il y a des choses lourdes et des choses légères. Mais l'essentiel était de transmettre l'histoire, que si ça ne soit pas perdu, c'était de s'attacher à l'émotion, et transmettre l'émotion que les gens ressentaient par rapport à cet objet qui les reliait à leur passé, à leur famille et à la Shoah.
Il y a cette expression qui est d'ailleurs évoquée par David Sander, le professeur en sciences affectives qui s'exprime dans cet ouvrage. Il parle de flashbulb memory.
C'est comme des éclairs en fait.
Exactement. Pour ça, vous parliez d'épisodes. Souvent, pour parler du flashbulb Perpetual Memory, on peut faire allusion au 11 septembre. Ça crée un réel flash mémoriel très impressionnant. On pourrait décrire les meubles qu'il y a autour de nous, les personnes qui étaient dans la pièce quand on a appris finalement ce qui est arrivé. Et dans le fond, c'est vraiment que les objets, en fait, déclenchent une mémoire épisodique, qui est plus justement cinématographique peut-être, et plus fournie, et qui nous permet peut-être de mieux saisir les contours de moments du passé qui sont uniques et qui correspondent à l'histoire familiale de ces personnes dans la Shoah. Parfois des histoires transmises, donc c'est des souvenirs du souvenir, parfois des histoires vécues en tant que tout petit enfant, et on a voulu le mettre en avant.
Absolument, et le premier exemple qui va parler alors à tous ceux qui nous écoutent, c'est celui de Joffo. Sabi, je crois qu'il dit d'ailleurs que l'on n'a jamais photographié, je ne me suis jamais séparée de cette agate, je l'ai rarement montrée, sauf aux enfants qui me demandaient ce que mes billes étaient devenues. C'est ma façon de le transmettre et c'est la première fois qu'on l'a photographiée.
Oui, j'étais très émue, j'ai rencontré Joffo au Salon du Livre à Genève.
On court après moi, c'est mon copain. Dans sa main, il tient un sac en toile qui ferme avec un lacet. Il me l'attend, je te fais l'échange. Contre quoi? Et là, effectivement, il y a l'étoile jaune.
Il arrache son étoile juive, son étoile jaune, et il l'échange contre un sac de billes. Toute son histoire a commencé par là. Il n'avait plus son étoile jaune, il a vécu caché. Il raconte ça très bien dans son livre, Un sac de billes. Justement, deux films ont été faits à ce propos-là, à partir du livre. Donc si vous avez envie d'aller en voir un, c'est plutôt le deuxième, qui est le plus récent qu'il faut voir.
Mais alors, il l'avait toujours dans sa poche.
Alors je me suis approché de lui, on a commencé à discuter un petit peu, je lui ai raconté le projet qu'on avait, et je lui ai demandé ce qu'étaient devenues ses billes. Et c'est apparemment une question que personne ne lui pose, sauf quelques enfants. Et comme ça, tout à fait gentiment et naïvement, avec un grand sourire qui m'a totalement fait fondre, il fouille dans sa poche et il sort une bille et il me la montre. Et moi, je lui dis, vous permettez? Je sors mon appareil photo, que j'ai le plus souvent avec moi. Il me dit, oui, bien sûr, c'est la première fois qu'on la photographie. Et je prends la photo.
Et vous racontez d'ailleurs chacun, vous racontez vos histoires et vos objets. Dites-moi, vous, quel est votre objet à chacun?
Alors moi, j'ai deux objets qui me relient à mon passé, à mes parents, à ma famille. Mes parents vivaient en Pologne, dans une petite ville. Et pour son mariage, ma mère avait cousu une nappe pour son trousseau. Ma mère a eu la chance de ne pas être déportée très tôt, mon père également, parce que mes parents ont été pris en affection par un homme, ce qu'on appelait un Treuhänder, c'est-à-dire quelqu'un, un directeur de l'usine dans laquelle mes parents travaillaient, une usine évidemment juive qui avait été évidemment confisquée par les nazis à leur arrivée, à leur invasion de la Pologne. Et donc cet homme gérait l'usine, mais comme il n'avait pas de compétences, il a gardé les employés qui y travaillaient, dont mon père comme comptable et ma mère comme secrétaire. Et il les a protégés, je peux raconter beaucoup d'histoires et d'anecdotes que mes parents m'ont finalement transmis, mais avec beaucoup de difficultés, parce que évoquer ce sujet-là était très pénible pour eux. Toujours est-il qu'ils n'ont été déportés que dans les grandes rafles, au moment où la Silésie a été déclarée Judenrein, c'est-à-dire où il ne devait plus y avoir un seul juif, même des juifs utiles, qui pouvaient encore travailler. À ce moment-là, mes parents ont été déportés. Et mes parents, ma mère, a laissé à cet homme des photos, des bijoux et
cette fameuse nappe.
La fameuse nappe. Cet homme les a suivis, il savait à peu près où ils étaient, dans quel camp de concentration. Il y a toute une liste de camps dans lesquels mes parents ont séjourné. Et finalement, après la guerre, ils ont survécu. Ils ont survécu grâce à l'aide de cet homme. Donc c'est un peu une histoire analogue à la liste de Schindler. Et après la guerre, ah oui, ils se sont revus, ils se sont retrouvés. Et cet homme leur a retransmis à mes parents la nappe, les bijoux qui restaient, ceux qu'ils n'avaient pas utilisés pour leur rendre service, et les photos sous forme d'un petit album. Et ça, ce sont mes deux objets, la nappe et l'album de photos. Et ce qui est amusant aussi, c'est que quand j'ai fait la photo, c'était pas une des premières que j'ai faites, mais quand je me suis décidé à faire des photos pour illustrer mon histoire, il se trouve que presque par hasard, je me suis mis devant un miroir et je me suis photographié dans le miroir. Mais par hasard, j'avais mis la nappe sur mes épaules, à la façon dont les juifs mettent un châle de prière, et je tenais l'album de photos, le talit, oui, et je tenais l'album de photos dans mes mains, comme les juifs tiennent un sidour, c'est-à-dire leur livre de prière. je vous cache pas que je suis pas du tout porté sur les choses de la religion, mais voilà, il y a des hasards qui ne s'inventent pas.
On va raconter l'histoire d'Ilan et du cintre, mais on va peut-être écouter un premier disque et on se retrouve juste après. C'est choix de Nathalie Schoenberg, Dominique A. et Bachung, premier titre de cette émission immortelle. C'est sur la première, Écosystème, jusqu'à 14h. Nous parlons aujourd'hui des objets transmissionnels, les liens familiaux à la Shoah, mais qui dépassent évidemment cette histoire-là. Et le livre est paru chez Slatkin. À tout de suite.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait? Qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Quelques informations routières avant la suite d'Écosystème.
Infotrafic RTS.
Prudent si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Genève. Des objets ont été perdus à la hauteur de l'échangeur d'Écublens en direction de Genève.
Michel Borzikowski et Ilan Lev sont nos invités aujourd'hui pour les objets transmissionnels. C'est un livre, c'est un concept, c'est un gros travail qui vous a pris plus de 3 ans, voire près de 4 ans, pour réunir une quarantaine de témoignages où des survivants des deuxième, troisième génération disent ses souvenirs de la Shoah à travers un objet. Il y a de très belles photos, c'est vraiment un bel ouvrage paru chez Slatkin, et on le disait, il y a en plus une sorte de regard sûr, puisque vous avez fait appel à différents spécialistes, enfin, qui ont un regard sur justement la transmission. On va essayer de revenir sur tout ça. Mais Ilan Lev, on s'est quitté avec l'histoire de Michel, la vôtre. C'est un cintre qui vous rappelle. C'est votre grand-père, hein, je crois.
Voilà, exactement. C'est mon grand-père. C'est un cintre qui a été trouvé chez mon grand-père, qui a été remis à mon père par l'intermédiaire de sa seconde femme. Je n'ai pas 88 ans. À savoir que souvent, quand on parle des souvenirs de la Shoah, on pense aux personnes qui vont bientôt disparaître et dont on ne pourra plus entendre le récit, et on n'aura plus d'histoire nouvelle à ce propos. Et tout l'enjeu aussi de ce livre, en tout cas par rapport à la question de la Shoah, est qu'en fait, ce sont des récits qui ont été racontés ou qui font l'objet en fait d'une enquête, comme la mienne. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je n'ai retrouvé ce cintre qu'à l'âge de 20 ans, quand il a été envoyé d'Israël par la deuxième femme de mon grand-père. Bon, déjà, le cintre est cassé. Sur ce cintre, on peut lire l'inscription « Magasin de vêtements pour hommes », tout ça en polonais, puisqu'il s'agissait d'un magasin à Varsovie, « à la mode viennoise ». Donc, « Magasin de vêtements pour hommes à la mode viennoise », a.ch.lev. Lev, c'est mon nom de famille et c'est celui du père de mon grand-père. Après, un numéro de téléphone que j'avais vraiment envie de composer.
Oui, forcément.
Et on se dit, bon, on va commencer l'enquête. On va essayer justement de voir ce qu'on peut faire de ça. Je veux dire, c'est le seul objet qui finalement est en lien avec toute cette partie de la famille complètement engloutie.
Vous avez réussi à remonter cette histoire.
Évidemment. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir une cassette de mon grand-père qui, grâce à mon autre grand-père qui vivait à Genève, s'est enregistré et a raconté sa vie pendant 2 heures. C'est un truc que j'ai découvert très récemment. Il parle une langue complètement bigarrée. Donc j'ai pu, grâce à son récit, poser des hypothèses. Le plus probable, c'est que en rentrant de sa fuite, où il a d'ailleurs rencontré sa femme, il est revenu vers Varsovie. Et en fait, son appartement était occupé par les concierges. Il faut savoir que ses parents ont été déportés entre-temps, puisqu'ils étaient dans le ghetto de Varsovie. Et en arrivant là-bas, ben, les concierges leur ont bien fait comprendre qu'en fait, c'était eux les gens qui vivaient dans cet appartement. Et
il aurait pu récupérer ce cintre.
Il a récupéré ce cintre. C'est rare qu'on garde des objets des ancêtres, mais là, c'est très particulier parce que c'était quelque chose qu'il a gardé précieusement, mon grand-père, alors qu'il adorait se délester de tout. C'est comme ça qu'il s'en
mais
est sorti.
Mais ça, il l'avait gardé.
Il a gardé un cintre cassé.
Petit avion, chapeau, montre, éléphant, poupée, coffret, service à thé, broche, bagues, chaussures. C'est un peu un inventaire à la Prévert, en fait, à travers ces 40 objets.
C'est exactement ça. Et quand on fait visiter l'exposition, parce que le livre est accompagné d'une exposition de photos qui a déjà été présentée à plusieurs endroits, dont à Genève, à Unimail, à la Haute École de Travail Social, à Strasbourg, à Versoix, à Vercorin. Quand on fait visiter cette exposition à des enfants, on fait des petits jeux avec eux. On leur demande par exemple de trouver quel est l'objet le plus petit, ou le plus précieux, ou le plus grand. Alors le plus petit, il fait moins d'un centimètre, c'est un petit bijou, c'est un petit éléphant en or. Le plus grand, c'est une maison. Alors c'est assez paradoxal, ce n'est pas une personne qui porte un objet, mais c'est un objet qui entoure. Et cette personne a racheté une maison dans laquelle elle avait été cachée.
Mais alors qu'on est ou pas des ancêtres victimes de la Shoah, l'attachement aux objets est quelque chose de partagé. On a tous, effectivement, je le disais au début de cette émission, un souvenir, une trace de quelqu'un qui est parti et dont on se défrait pour rien au monde. Michel Borzikowski, l'objet, c'est la mémoire.
L'objet, ça peut être la mémoire, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, si on a un petit peu plagié Winnicott en appelant nos objets transmissionnels, on s'est évidemment inspiré des objets transitionnels, mais autant un objet peut se substituer à l'amour ou à l'affection d'une maman, un cran plus loin, il peut aussi se substituer à l'absence d'une famille qui a été décimée. Beaucoup de personnes qui ont témoigné, des porteurs d'objets, ne connaissaient même pas les propriétaires de ces objets, mais ces objets les symbolisent, les représentent et ils les gardent à défaut d'autre chose.
Et Boris Cyrulnik, donc, qui signe la préface de ce livre, dit de ces choses qu'elles transportent vers les sentiments, car ces choses racontent une histoire personnelle, souvent fracassée. Il insiste beaucoup sur l'interprétation donnée à ces objets. Par exemple, il dit aussi qu'il y a des enfants, dans cette préface, hein, il dit aussi des enfants soldats qui gardaient des quittances de loyer ou des factures totalement anecdotiques, mais dans des petites boîtes en métal, pour dire « moi aussi j'avais une maison ».
Voilà, c'est l'attachement qu'on peut ressentir face à sa patrie, son pays, sa famille, ses amis, quelque chose qu'on a dû quitter par les circonstances de la vie. Voilà, on gardait ce qu'on pouvait.
Ça me faisait penser aussi à ce que dit Irving Goffman quand il parle de ces gens qui sont des asiles de fous, qui n'ont aucun élément qui les personnalise et qui constituent un petit monde. Ils vont réussir à voler un pot de yogourt et puis ils vont planter des graines et faire leur petit jardin et tout. Et ça, c'est le lien avec ce qu'on a été ou ce que d'autres personnes qui sont nos prédécesseurs ont été. Notre propos, il est vraiment lié à la migration aussi. Quand on pense à des gens qui ont émigré ici, des immigrés, parfois ils vivent dans des endroits très très étroits. Ils ont forcément des petites choses qui en fait les relient avec le pays d'où on vient ou avec des éléments qui finalement ne sont pas ici et maintenant.
Mais il y a quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, paradoxal dans ces objets, c'est qu'à la fois ils sont l'incarnation d'un lien que l'on a envie de chérir, une mémoire que l'on a envie de garder, et qu'en même temps ils sont aussi l'incarnation d'une souffrance.
Alors c'est un petit peu le paradoxe effectivement de ces objets. Certains sont chéris et gardés comme des objets précieux, d'autres sont tenus à distance avec une certaine méfiance. Effectivement la Shoah c'est avant tout un drame ou des drames. La particularité des objets qui sont mis en évidence dans notre livre, c'est qu'ils viennent de là. Parce que effectivement, tout le monde, Boris Cyrulnik en parle aussi, il parle par exemple des petits papiers de bonbons que les enfants roumains dans les orphelinats gardaient comme témoignage d'affection.
Sous l'oreiller.
Voilà, ils ont peut-être vu une maman offrir des bonbons à un autre enfant. Et c'est eux qui ont gardé les papiers que l'autre enfant ne voulait plus vu qu'il avait eu le bonbon. Je pense que ça doit correspondre à un besoin humain, quand même un besoin très très fondamental de trouver une attache, trouver un moyen de se rattacher, de se relier à ses origines, à sa famille, à de l'affection. Finalement, tout ça, c'est une question d'amour. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est avec les objets, c'est qu'ils peuvent être transmis.
Dans le fond, on offre un bonbon à un enfant. Il n'y a pas que le bonbon délicieux et sucré. Il y a vraiment le lien. On se dit, ah oui, les gens sont de plus en plus matérialistes quand ils sont dans le dénuement. Et on voit qu'il y a quelque chose de très, très, très émotionnel, affectif, et qui va bien au-delà du matérialisme, et qui est profondément ancré en nous, et qu'on peut trouver dans ce genre de manifestation-là.
Ce qui est plus étonnant, c'est que ces objets qui avaient une valeur pour leurs propriétaires, leurs premiers propriétaires, ont été transmis. Et en général, ils ont été transmis à la descendance. Deuxième génération, troisième génération, et l'attachement à l'objet a été transmis avec l'objet lui-même. Et même des troisièmes générations, ne serait-ce que pour prendre l'exemple d'Ilan et de son cintre, je crois que Ilan le garde, ce cintre.
Ah oui, j'ai l'impression que c'est non négociable.
C'est non négociable et je pense qu'il va le transmettre.
À mon fils.
Si j'en reviens à ce paradoxe, il faut parfois du temps aussi pour apprivoiser ces objets.
Ah oui. Dans mon cas, justement, mon histoire, elle est vraiment aigre-douce.
Beaucoup de ces histoires pourraient être dramatiques ou sont dramatiques, oui. Mais la façon dont elles sont racontées fait que il y a toujours une lueur d'espoir. Et je pense que c'est les objets qui doivent révéler cette lueur d'espoir, ce sourire qui, à un moment ou à un autre, apparaît dans le texte et que j'ai aussi essayé de retransmettre dans les photos. Parce que des photos d'objets, il y en a beaucoup. Des objets, il y en a dans tous les musées. On voit des tas de lunettes, des tas de chaussures, des tas de valises. Et ça évoque tout à fait autre chose que ce que nous avons voulu évoquer, Ilan et moi, dans ce livre. Quand on regarde les photos en particulier, on n'a pas choisi des photos où les gens pleurent, où les gens se lamentent, où les gens ont un air de catastrophe. Il y a toujours une ébauche, au minimum, de sourire qui se tourne vers l'avenir.
Quand Boris Cyrulnik, alors je reprends encore Boris Cyrulnik, parle de résilience, c'est bien, il faut faire quelque chose avec ça.
Il faut en faire quelque chose, c'est ça. Alors il y a évidemment l'espoir en l'avenir, il y a les deuxième, troisième et quatrième générations et les générations suivantes, ça c'est un très grand espoir. Et puis il y a l'humour.
Je pense que la différence entre des objets pléthoriques qui sont pas liés à leur propriétaire, enfin les objets à l'entrée d'Auschwitz, et des objets qui sont retrouvés chez des personnes qui sont les descendants de survivants, il y a une grande différence. La différence, c'est que on commence le labyrinthe par la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on a interviewé des descendants de survivants. Si on commençait à vouloir commencer le labyrinthe depuis le début, on aurait des histoires absolument tragiques, coup pour coup et constamment. Ça, c'est vraiment entrer par la porte principale. Nous, on a fait l'inverse. Et donc, en même temps, évidemment qu'il y a des gens qui ont disparu et dont on parle. Mais pour beaucoup aussi, c'est des histoires de survie. Parfois avec un lourd poids et parfois aussi avec cet enjeu qui a été décrit par Cyrulnik avec son concept de résilience et pas mal de création qui va autour certains comportements ou une certaine vision du monde qui peut transparaître dans le livre.
Objet transmissionnel, c'est le titre du livre paru aux éditions Slatkin, qui est un bel ovni, avec une quarantaine de photos, des textes qui expliquent effectivement des histoires, et comme vous le dites si justement, on rentre par la vie. Michel Borzikowski et Ilan Leff sont nos invités. Jusqu'à 14h, nous avons de la musique. Le deuxième choix s'est posé sur Blik Bassi et Roseau sur la première. Cat, c'est le titre que je vous propose d'écouter maintenant.
Écosystème, jusqu'à 14h sur la première.
Dans cette troisième partie d'émission, nous avons toujours nos deux invités, Michel Borzikowski et Ilan Leff. Objet transmissionnel paru chez Slatkin raconte des histoires. Je le disais, chacune pourrait presque faire l'objet d'une histoire, d'un livre en soi, puisque tellement elles sont riches. Et tout ça est né, je le disais, il y a presque 4 ans, puisque ça fait presque 4 ans que vous êtes attaqué à cette hausse-là. L'idée vous est venue parce que réseau 2G, c'est ça? Réseau 2G, c'est, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Groupe de parole, groupe de rencontre autour de la Shoah et des survivants, de ceux qui sont encore là, qui ont besoin de parler, de raconter, de dire.
C'est ça. C'est parti de l'idée d'Ilan. Si je me souviens bien, Ilan est venu un jour me trouver en me disant « Qu'est-ce que tu penses? On pourrait créer un réseau, un groupe de parole de personnes de deuxième ou troisième génération. Est-ce que tu penses que ça ferait sens à Genève ?» C'est des choses qui ont déjà existé dans pas mal d'autres villes, à Paris, à New York, en Israël. Il y a eu des groupes d'entraide, des groupes de thérapie et tout ce qu'on veut. Il y a une certaine souffrance aussi dans la nébuleuse de la Shoah, dans les générations qui l'ont suivie. Et finalement, comme ça n'avait pas été fait, pourquoi pas? Et à la première rencontre proposée, il y avait une quarantaine de personnes. Certaines sont restées, d'autres ont quitté le bateau en cours de route. Mais voilà, ça a donné lieu à un groupe de parole qui s'est réuni qui se réunit encore maintenant depuis 4 ans, à raison d'une fois par mois à peu près.
Et c'est de là que vous est venue l'idée de ces objets?
C'est dans cet espace-là.
C'est dans cet espace-là.
Moi, j'appelle ce lieu un espace d'échange, de partage, de réflexion. Et finalement de création. Finalement.
Et si je recite, pardon, Cyril Nick, il dit « Tout récit de vie est une entreprise de libération ». C'est ce que vous avez voulu faire.
Alors je pense qu'il devait y avoir de ça, mais jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé beaucoup de gens ont travaillé sur le devoir de mémoire, enfin un travail de mémoire. Mais ouais. Au-delà du devoir de mémoire, du travail de mémoire, il y avait aussi quelque chose qui a été exprimé par de très nombreuses personnes dans notre groupe, c'est le besoin de mémoire. Besoin de se souvenir, besoin de partager leurs souvenirs, de les évoquer avec d'autres, et en particulier avec d'autres qui avaient un passé un petit peu similaire et dont on pouvait s'attendre qu'il n'ait aucun jugement de valeur. Il n'y avait pas d'option thérapeutique, bien que dans ces groupes-là, c'est étonnant, il y a un grand nombre de médecins, de psychologues et d'enseignants et d'artistes. Le but était uniquement de transmettre, de conserver, et de transmettre non seulement de génération en génération, à ses enfants, à ses petits-enfants, mais aussi de transmettre à ses pairs, P-A-I-R-S, à ses semblables, à des gens qui pouvaient comprendre et ne pas porter de jugement.
Je ne sais pas qui le dit dans un des textes d'ailleurs, qui dit qu'effectivement beaucoup de descendants de victimes de la Shoah se sont retrouvés dans les professions du care, de s'occuper de l'autre, c'est-à-dire ce besoin de réparation, mais finalement on va réparer les autres en se réparant soi-même probablement.
Oui, c'est un concept assez juif de vouloir réparer le tikkun olam, c'est la réparation du monde, comme si le monde avait été créé de manière imparfaite et que l'homme avait le devoir de le réparer d'une manière ou d'une autre, de le rendre meilleur.
Mais que ça impacte la deuxième génération, évidemment, les descendants directs dont vous êtes, Michel, c'est une évidence, forcément. Mais vous, cette troisième génération, en quoi elle est impactée? Parce que vos parents étaient eux-mêmes impactés, que vous avez aussi les fruits amers de cette histoire-là?
C'est complexe. Je pense que les auditeurs savent que les petits-enfants sont ceux qui écoutent les histoires des grands-parents, qui vont s'intéresser à la langue d'origine, qui vont voir dans la maison un samovar, ils vont voir un tableau de Chagall.
Qui vont aller chercher ce passé. Et c'est souvent la troisième génération d'ailleurs qui est la plus curieuse, parce que pour la deuxième génération, Michel Borzinski, c'est plus compliqué de questionner directement ceux qui ont été victimes.
Beaucoup de survivants de la Shoah ont gardé un silence absolu après. Ils pouvaient pas en parler, personne ne voulait les entendre d'ailleurs, on les a pas crus, et puis on voulait pas qu'ils continuent à rabâcher les mêmes histoires. Et eux-mêmes voulaient se tourner vers l'avenir, recréer une famille, se refaire une situation dans la vie. Donc c'était un peu un sujet tabou pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de survivants. On n'en parlait pas à ses enfants. Évidemment, on n'en parlait pas, mais on en parlait quand même. Il y avait quand même une transmission. Il y avait le poids, il y avait la lourdeur, il y avait le miracle, il y avait toutes sortes de choses qui étaient transmises, mais qui n'étaient jamais évoquées, en tout cas jamais par des mots. À la troisième génération, les choses ont un peu changé. parce que d'abord tout le monde a pris de l'âge, on a pris de la distance du temps avec les événements, et puis les petits enfants avaient une naïveté, un questionnement auquel les grands-parents ont pu commencer à répondre alors qu'ils n'ont jamais voulu en parler à leurs propres enfants. Et certains enfants de survivants ont découvert la Shoah ou le vécu de leurs parents pendant la Shoah par les récits que ses grands que ses parents
faisaient
devenus grands-parents
aux enfants,
ont fait
sûr,
à leurs
petits enfants.
C'est ça. Mais moi, je voudrais introduire deux idées par rapport à ça, par rapport à la transmission de génération en génération, parce que maintenant, on arrive bientôt à la quatrième, à la cinquième génération, et on a eu quelques contacts avec, par exemple, des descendants de survivants du génocide arménien. Très intéressant aussi, parce que eux, ils ont...
Mais parce que la Shoah n'est hélas pas le monopole des génocides du XXe siècle.
Non, le concept de génocide... Et d'abord lié à la description de ce qui s'était passé en Arménie, dans la région d'Arménie occidentale, en 1915. C'est à travers ça que Raphaël Lemkin, qui a créé le terme de génocide, l'a envisagé déjà avant la Shoah. Et ensuite, il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que ce terme a été rendu officiel, notamment aux Nations Unies.
On peut aussi penser aux Tutsis. Enfin, je veux dire, ce sont les générations.
Il faut loin d'être exhaustive.
Oui, à partir du moment, je dirais, où on a des ancêtres qui ont vécu l'atrocité, que ce soit reconnu comme génocide ou pas, on porte une histoire.
On porte une histoire, et alors là, je vais introduire les deux concepts dont je vous ai parlé. C'est le concept de radioactivité, le concept d'épigénétique. Alors, l'image de la radioactivité, elle a été introduite par une des 40 personnes. C'était Michael. Et lui, il est venu avec un compteur Geiger et une montre. Une montre que son père avait achetée dans une brocante. Il aimait ça, il collectionnait les montres. Et un jour, Michael, qui est un amateur de minéralogie et de physique, il se promène dans le salon de son père avec son compteur Geiger, donc détecteur de radioactivité. Il s'approche de la montre est radioactive. Et quand il est venu raconter son histoire, il nous a assez peu parlé finalement de l'histoire même de sa famille et de ses parents, mais il nous a décrit la façon dont lui, il avait été impacté par la Shoah, à la façon d'une irradiation. Ses grands-parents, ses parents ont été irradiés par la Shoah, ils sont devenus radioactifs, ils sont en voie de désintégration dans son imagination,
son récit
à lui. Chaque demi-vie, un élément radioactif perd la moitié de sa radioactivité. Et lui fait le parallèle avec la transmission de génération en génération. À chaque génération, on perd la moitié de sa douleur, de sa souffrance. Donc troisième génération, c'est la moitié de la moitié. Quatrième, la moitié de la moitié de la moitié. Mais où est-ce que ça s'arrête? Alors ça, évidemment, on ne le sait pas. Il y a des gens qui ont dit 3, il y a des gens qui ont dit 4, d'autres ont dit 5. Je crois que le débat est ouvert, on n'a pas de réponse. L'autre concept, c'est l'épigénétique. Évidemment, les choses sont transmises par les parents à leurs enfants de manière orale, de manière non-verbale. Mais il y a encore une autre transmission qu'on vient de mettre en évidence maintenant, qui c'est encore un sujet de recherche. Je crois que le sujet n'est pas clos.
C'est votre casquette de médecin aussi.
Oui, qui ressort un petit peu.
Qui
quand
ressort
même.
Un petit peu. Oui, les affaires du corps.
Non, mais tant mieux.
Voilà. Alors l'épigénétique, c'est une découverte récente. Je vais essayer de la résumer très succinctement. On sait que les caractères héréditaires se transmettent par le DNA qui se trouve dans le noyau des cellules, l'ADN qui se trouve dans le noyau des cellules. Il y a aussi des supports génétiques qui ne se trouvent pas dans le noyau, qui se trouvent dans les mitochondries ou ailleurs, et qui peuvent aussi être transmis, et en particulier par la mère. Et on est en train de faire des recherches là-dessus. D'ailleurs, ça va être un des sujets qui sera abordé dans une des prochaines rencontres du réseau deuxième génération. On a la chance d'avoir à Genève une spécialiste, Ariane Jacobino, qui travaille beaucoup sur l'épigénétique et qui va nous faire un exposé là-dessus. Donc, il y a une transmission qui n'est pas seulement verbale et non verbale. Il y a encore une transmission qui peut être parfaitement
corporelle,
somatique,
incarnée. Et voilà. Ça veut dire que le corps peut se souvenir de ce qu'il n'a pas vécu.
C'est ça.
C'est un petit peu ça en résumé.
C'est un petit peu ça que ça signifie, oui.
Mais il y a des pathologies de ces victimes, génération, deuxième ou troisième génération, il y a des pathologies qu'on peut essayer de ressortir, qui sont récurrentes.
Oui, ça a été beaucoup recherché, évidemment. On a essayé de mettre ça sous un seul chapeau et de dire voilà, tous les survivants ont telle pathologie. Non, en fait, il n'y en a pas. Oui, bien sûr, il y a des symptômes, mais il n'y a pas une pathologie du survivant ou de la deuxième génération ou de la troisième génération. Il y a toute une constellation. Pour parler de mes parents, par exemple, mes parents dormaient très mal, ils cauchemardaient la nuit, j'entendais mon père qui se réveillait et qui pleurait. Donc les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, un rapport un petit peu particulier avec les enfants, un amour excessif, un surinvestissement des enfants. Et encore s'il faut parler des enfants qui sont nés après la Shoah, mais parmi ces enfants-là, certains ont été des enfants de remplacement pour d'autres enfants qui vivaient avant la Shoah et qui n'ont pas survécu. Et c'est encore un tout autre chapitre.
La balade de chez Tao, c'est le troisième titre choisi par Nathalie Schoenberg et c'est à Jacques Higelin qu'on le doit. Avant d'entamer la dernière partie d'Egosystème, je vous rappelle le nom de nos deux invités, Michel Borzikowski et Ilan Leff, sont tous deux auteurs d'objets transmissionnels. C'est le titre du livre paru aux éditions Slatkin. On en reparle dans la dernière partie.
Se lever sur la baie de Calvi, je lève mon verre, le cœur gros. Frères aux amis de Tao, vivez heureux aujourd'hui, demain il se trop tard. Mon cœur se rappelle, chanté Mirekati Tao Bi, maman Tao Salim Elena, enfant de la citadelle. Qui savait ce chamaille? Demeure s'est levé à Paris. Mes pensées s'envolent vers Calvi. Dans la citadelle de mes amis.
C'est la dernière partie de ce rendez-vous aujourd'hui en ce lendemain de Toussaint. C'est vrai que nous parlons de ceux qui ont disparu. Objet transmissionnel, le titre de ce livre paru aux éditions Slatkin nous raconte à travers des objets, d'infimes objets, finalement d'objets sans valeur, des souvenirs qui peuplent une vie. Pensez-vous qu'à travers ces récits, vous avez entendu des hommes et des femmes apaisés ?
Ils nous l'ont dit. Certaines personnes ont raconté leur histoire de vie pour la première fois. Je pense à Jacqueline, chez qui je suis allé. On a passé 6 heures à parler, sans boire, sans manger, sans savoir que la terre tournait et qu'il se passait autre chose autour de nous. Je suis revenu une deuxième fois, on a encore passé 6 heures. Elle avait besoin de raconter, elle avait jamais raconté son histoire à quiconque, même pas à ses petits-enfants. Des bribes, par-ci, par-là, des petites histoires. Elle a réussi à tout raconter. Une autre personne qui a aussi réussi à faire une boucle, c'était Ursula. Ursula était la fille d'un chef d'orchestre qui était très célèbre en Allemagne et qui a dû quitter l'Allemagne parce qu'il était pourchassé par le régime nazi et qui est mort dans un accident d'avion. On a retrouvé la bague de son épouse dans la Méditerranée et elle garde cette bague, elle nous l'a montrée.
Ses parents sont morts en 1946 dans un accident d'avion à Barcelone, enfin au-dessus de Barcelone. La bague a été retrouvée dans les flots en Méditerranée.
Là, quand je disais qu'il y avait des miracles, ça, c'est un miracle.
Et c'était extrêmement, extrêmement touchant, vraiment extrêmement bouleversant, le fait que, au vernissage du livre, la fille de Ursula nous a dit que le fait que ça paraisse dans ce livre, c'était aussi pour elle une manière de dire que la boucle était bouclée. Ça l'a aidé, en fait, vraiment à régler un certain nombre de choses fondamentales liées à sa propre histoire. Donc, ça peut avoir un effet très fort.
Ça aide. Pour autant que ce soit entendu. Beaucoup de survivants ont voulu raconter l'histoire, on ne les a pas écoutés. Ça n'a servi à rien. Il y en a même qui en sont morts, bien après la guerre. Ils se sont suicidés, je pense à Primo Levi, Bruno Bettelheim un peu plus tard. Raconter l'histoire, c'est extrêmement important, la faire entendre et à défaut l'écrire. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire.
Même si c'est pour n'être lu que dans un tout petit cercle, voire ne pas être lu, mais la poser sur le papier à vertu thérapeutique.
Beaucoup de gens font ça, beaucoup de gens écrivent l'histoire de leur famille. Ils publient ou ils publient pas. Le plus souvent, ils publient pas. Ils gardent un papier écrit, un papier manuscrit ou maintenant avec l'ordinateur. Et on garde ça dans un disque dur et on le transmet à ses enfants. Et on regarde ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer après. Mais on suppose que les enfants vont en faire quelque chose plus tard.
Quelles sont les choses qui vont suivre à la parution de ce livre, objet transmissionnel, chez Slatkin? Il y a eu une exposition photo qui s'est déjà bien baladée. Comment allez-vous Alors justement, comment allez-vous continuer à faire vivre ces photos, ces objets, ces récits?
Alors je pense que maintenant, on va présenter le livre dans plusieurs endroits à des personnes qui pourraient être intéressées parce qu'elles ont un vécu commun. On va continuer à présenter l'exposition. Il y a déjà une exposition qui est prévue à Versoix prochainement, au début de l'année 2020. Peut-être à Lausanne, ça c'est encore pas tout à fait certain. Et puis on est en contact avec d'autres lieux qui pourraient l'exposer. L'idée c'est de laisser le livre un petit peu ouvert, c'est-à-dire soit de recueillir encore d'autres témoignages et de faire un tome 2, mais peut-être encore plus facilement, maintenant que le sujet est lancé dans le public, c'est d'ouvrir une page web ou un blog où les gens pourront, alors à ce moment-là ça ne sera plus limité à la région genevoise, ça peut être dans toute la Suisse, voire dans l'Europe, dans le monde entier, où les gens pourront se photographier eux-mêmes avec leurs objets et poster leurs photos avec leurs textes s'ils le veulent sur un blog ou un site.
Comme une sorte de musée virtuel finalement.
Exactement.
Mondial. Oui, incroyable, c'est ça. Ça c'est une belle idée.
Je voulais aussi ajouter que je pense que cette enquête pourrait intéresser le public francophone beaucoup plus largement. Au-delà des aspects locaux, il y a vraiment une recherche sur la mémoire familiale de la Shoah qui n'a pas tellement été faite. Il n'y a pas d'équivalent, alors que ce ne sont pas forcément les survivants tels qu'on les envisage d'habitude, qui ont vécu les événements directement, mais des enfants, des personnes qui étaient enfants à cette époque-là. Et on, vraiment, ce livre est là pour promouvoir, en fait, et pour donner toute légitimité au discours et aux propos des descendants de survivants. Moi, ce que je pense, déjà, c'est qu'il faut vraiment s'entraider entre personnes qui sont issues de ce genre d'horizon, que ce soit la guerre ou la migration ou la Shoah, donc c'est même très large. Finalement, deuxième et troisième génération sont des mots qui viennent de la sociologie de la migration. Ce livre est à la portée et devrait, idéalement, agir en miroir. C'est-à-dire que le lecteur va pouvoir lui-même s'interroger s'il n'a pas des objets qui lui permettent aussi de se rapprocher de souvenirs familiaux qui soient en Suisse ou qui soient justement liés à des déplacements ou des guerres, pour pouvoir finalement se rattacher à ce qu'on a été et qu'on aurait pu continuer à être si les circonstances étaient différentes. Et je pense que ça, c'est fondamental, que l'idée que les personnes justement qui viennent d'horizons très 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 variés puissent finalement se poser les questions en miroir à travers un exemple qui est finalement lié à une situation et à un cas paradigmatique comme celui-là.
Mais en fait, la question, c'est d'où je viens. C'est juste ça.
C'est beaucoup ça.
C'est une très bonne question. Et elle nous est venue un petit peu sur le tard dans l'élaboration du livre. Nous sommes partis de 40 personnes qui avaient tout un lien plus ou moins proche avec Genève. Des gens qui habitent à Genève, qui travaillent à Genève, qui habitent en région genevoise, pas loin, ou qui venaient pour y donner un exposé, une conférence, Joseph Joffo, Salon du Livre. Donc tout était centré sur Genève. Et on s'est dit finalement, est-ce que ce livre pourrait intéresser, ou est-ce que ce thème pourrait intéresser d'autres personnes? Alors oui, sur le plan théorique, bien sûr, il va intéresser d'autres personnes parce que les objets sont ubiquitaires. Mais même oui. Ce livre-là, indépendamment de son propre vécu, évoque un nombre de lieux d'Europe et du monde.
Oui, la
qui est
provenance.
Absolument incommensurable.
D'Europe, surtout.
Bien sûr, parce que ça a touché 17 pays, donc voilà, forcément.
Je me suis amusé à mettre sur une carte de géographie un point rouge sur chaque endroit qui était mentionné. Un endroit où l'objet avait séjourné, transité, où les gens avaient été, où ils l'avaient emporté, où ils l'avaient laissé, où ils allaient. Et la carte d'Europe est constellée de petits points. Mmh. Et même, évidemment, les petits points rouges vont jusqu'en Amérique, au Brésil, en Argentine, au Chili, en Amérique, en Afrique du Nord, en Israël, bien sûr.
Merci en tout cas de l'avoir écrit. Objets transmissionnels, liens familiaux à la Shoah, préfacé par Boris Cyrulnik. Et un petit mot aussi de Ruth Dreyfus, qui vous a dit quelques mots pour de soutien et d'encouragement autour de ce travail de mémoire. Il est paru chez Slatkin. C'est un bel objet qui nous permet de questionner effectivement tout un chacun par rapport à justement cette lignée, ces objets inanimés. Avez-vous donc une âme? Et là, ils en ont une, vraiment. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oh, the dead don't die any more than you or I. They're just ghosts inside dreams of a life that we don't know. They walk around us all the time, never paying any mind to the silly lives we lead. For the reaping we've all sown, there's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corners gone, but the devil'll still be walking round this whole world alone. Cause afterlife is over, the afterlife goes on. There'll be old friends walking around in a somewhat familiar town that you saw once when you looked up from your phone. Nobody by the same height,
And you can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not at home. And the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights to shine down on. But the dead'll still be walking around in this old world alone. Our afterlife is over. The afterlife goes on. Hearts break with loved ones' journey on. At the thought they're now forever gone. So we tell ourselves they're all still around us all the time. Oh, we're not forgotten, just memories left behind.
Sturgill Simpson, dernier choix musical avec ce titre, The Dead Don't Die. C'est à Nathalie Schoenberg que l'on doit la programmation musicale du jour. Il y avait Quentin Kelvenek en régie. Merci à lui et merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Sur la première, il est déjà 14h. Bye bye.